France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Un an après les journées de révolte et de violence en Nouvelle-Calédonie, les discussions entre l'État français, les indépendantistes et les non-indépendantistes n'ont pas abouti. Paris veut mettre les Outre-mer au cœur d'une stratégie internationale mais ne parvient pas à résoudre les crises. Nous parlerons demain du régime d'exception qu'est Mayotte, mercredi du poison de la vie chère en Martinique et Guadeloupe, jeudi en Guyane, des services publics en carence. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie où le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a dû reconnaître jeudi que ses espoirs de compromis étaient déçus.
C'est un effort exceptionnel que l'État réalise et qui devait être rappelé. Cependant, nous devons constater donc avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu, ce qui ne permet pas de régler notamment la question de la composition du corps électoral et celle de l'exercice du droit à l'autodétermination. Ce qui ne permet pas de stabiliser surtout la Nouvelle-Calédonie pour les mois qui viennent.
Jamais on n'a abordé le sujet de la double nationalité, jamais on n'a abordé le sujet du transfert des compétences régaliennes, encore moins le siège à l'ONU. Et là, d'un coup, Manuel Valls arrive en Nouvelle-Calédonie lors de sa dernière visite. Pouf, indépendance, association. Comment voulez-vous qu'on accepte ça?
Même s'il n'y a pas eu d'accord aujourd'hui, ça n'empêche en rien la possibilité d'avancer et puis de nourrir le débat sur les perspectives dans lesquelles on peut s'engager. Il y a eu des points de convergence qui sont notables.
Des points de convergence entre gouvernements loyalistes et indépendantistes, ici représentés par Emmanuel Tchibaou, président de l'Union calédonienne. En 1988, lors des accords de Matignon, son père, Jean-Marie Tchibaou, nationaliste kanak, parlait des discussions sur le destin de son pays comme d'un pari sur l'intelligence. Pari relevé, accepté alors par Jacques Lafleur, dans cette poignée de main qui scellait le début d'un processus. Il s'agissait, je cite, de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité. La poignée de main a depuis été coulée dans le bronze et installée il y a 3 ans en plein centre de Nouméa, mais l'esprit du moment, lui, s'est quelque peu envolé. Les sculptures de Jean-Marie Tchibaou et Jacques Lafleur ont assisté impuissantes, il y a un an presque jour pour jour, à plusieurs journées d'affrontements, de destruction de centaines de bâtiments publics, de commerces, d'entreprises et à partir du 15 mai, de coups de fusil mortels. Révolté par une réforme du corps électoral qui remettait en cause les équilibres des accords de Nouméa, le camp indépendantiste s'est attaqué à ce qui représente l'ordre politique et économique dont il s'estime être l'éternel perdant, d'où les discussions engagées depuis par et avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Le dernier cycle de ces discussions s'est achevé jeudi dernier, le 8 mai, sans qu'aucun compromis n'ait été trouvé. Si certains redoutent aujourd'hui de nouvelles journées de violence, est-il possible de retrouver ce qui a fait la particularité des discussions entre les néo-calédoniens, quelles que soient leurs convictions, et avec l'État français, des échanges qui avaient réussi pour un temps à élargir le spectre du politique en y introduisant, chose rare par les temps qui courent, de la finesse, de l'imagination et pendant longtemps de l'espoir. Ce sont vos mots, Benoît Trépied, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue au CNRS. Vous avez fait paraître en mars aux éditions Anacarsis un livre qui revient certes sur la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis un an, depuis le 13 mai 2024, mais qui surtout s'interroge sur les raisons qui ont conduit le territoire à cette explosion. Le titre de votre livre, « Décoloniser la Kanakie Nouvelle-Calédonie ». Pourquoi pas Nouvelle-Calédonie tout court ?
Parce que tous les mots sont chargés, piégés et pris dans des contextes historiques particuliers. Et le mot Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception, puisqu'en fait c'est certes un terme officiel, mais c'est le terme coloniale créée par James Cook en 1774 pour désigner cette terre du Pacifique. Donc c'est une vision un peu tronquée de penser que c'est un terme objectif. Hein, finalement, c'est le terme que portent d'ailleurs les loyalistes, alors que le peuple autochtone de cet archipel, qui s'autodésigne comme Kanak, dit que son pays s'appelle Kanaky. Donc d'une certaine façon, la voie tracée par les accords de Matignon puis de Nouméa, cette dynamique de réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés, elle se cristallise aussi dans des noms, entre Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Donc en pratique, depuis une vingtaine d'années, il y a ce terme de Kanaky Nouvelle-Calédonie qui est de plus en plus usité localement pour symboliser cette voie médiane, et c'est pour ça que je l'ai repris pour le titre de ce livre.
Un souci d'équilibre sémantique et politique pour désigner le territoire, le choix des mots est politique. De la même façon, vous ne parlez pas d'émeute au sujet de ce qui s'est passé il y a un an, le 13 mai 2024, et pendant plusieurs jours, vous parlez d'un soulèvement. D'ailleurs, un an plus tard, Benoît Trépied, quel stigmate de ces 11 jours de violence? C'est encore quelque chose qui est chargé. L'atmosphère est chargée de ces jours-là.
Ah oui, énormément. Le pays là-bas, comme on dit, a beaucoup de mal à s'en remettre. D'abord, il y a beaucoup de stigmates visibles, hein, des ruines, des immeubles incendiés. Hein. Il y a eu 14 morts, vous l'avez dit, dont qui pèsent très fortement sur le quotidien des gens.
Il y a deux gendarmes et 12 Kanaks, est-ce que c'est
deux gendarmes, 11 Kanaks et un caldoche.
D'accord, un caldoche voilà, donc d'origine européenne.
Voilà, un européen, un descendant de colons. Il y a plus de 11 600 emplois du secteur privé qui ont été détruits, donc il y a une crise économique absolument sans précédent. Le pays a fait un recul de 10 à 15 points de PIB en un an. Donc c'est vraiment une crise tous azimuts, sociale, politique, économique, et le pays est encore complètement dans l'ornière, là-dessus il n'y a aucun doute.
Les braises du conflit continuent à rougeoyer, écrivez-vous Benoît Trépied, donc suite à ces 14 morts en tout, et toutes les conséquences à la fois visuelles et économiques que vous décrivez, cette décision prise par Manuel Valls de relancer les discussions avec les deux camps qui ne se parlaient plus. Alors à l'époque de Michel Rocard, il n'y avait pas de conférence en visio, là il y a beaucoup de visio, mais il y a eu aussi de visioconférences, des appels en visio, comme on dit, mais aussi beaucoup d'allers-retours. Manuel Valls s'y est rendu trois fois, à Nouméa et à Bouraï, la commune où s'est tenu le dernier cycle de négociations. Le simple fait que ces rencontres aient eu lieu, c'était une gageure.
Oui, ça a été une vraie réussite de Manuel Valls quand il est arrivé à ce poste-là en début d'année, puisqu'en fait, effectivement, vous l'avez dit, les gens ne se parlaient plus, et lui, il a réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire ses prédécesseurs depuis trois ans, c'est-à-dire depuis le fameux référendum de 2021 qui a un peu été le début de la fin, disons. Il a réussi à remettre tout le monde autour de la table, de tout le spectre politique, et il a tenu cette démarche pendant plusieurs mois, jusqu'à aboutir à ce dernier cycle de négociations où, de tout ce travail d'écoute, en fait, il s'est remis dans l'héritage de Michel Rocard. C'est fondamentalement ça, hein. C'est ce qui avait marqué l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. C'était cette position d'un État impartial, équidistant dans la lignée de Michel Rocard. C'est ce qui avait cessé d'advenir entre 2021 et 2024 sous l'impulsion des ministres successifs Sébastien Lecornu puis Gérald Darmanin. Et là, Valls a renoué les liens de cette méthode de équidistant, de neutralité, jusqu'à apporter ce projet d'accord qui était vraiment l'achèvement de la décolonisation. Il a dit ça, il faut achever la décolonisation, mais on l'a vu, ça a été refusé par les loyalistes.
Là, nous arrivons à un moment où il faut essayer de concilier des positions qui sont évidemment très antagonistes. Donc oui, c'est un moment de vérité, il faut tracer un chemin, il faut que le gouvernement que je représente prenne ses responsabilités et cherche au fond à présenter une voie qui soit originale, qui concilie, et je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, qui est une terre kanak, française, mélanésienne et océanienne, européenne aussi, c'est ce que disait déjà ce que disaient les accords de Nouméa, cette aspiration aussi, ce lien avec la France. Moi, je crois que c'est possible, mais il faut avancer, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre.
Manuel Valls, donc sur la chaîne Calédonia, le 1er mai, avant que ne commence ce dernier cycle de négociations qui s'est achevé jeudi dernier, qui s'est soldé par un échec, un conclave, comme il disait, de 3 jours à 8 clos, dans un hôtel isolé, je ne sais pas combien ils et elles étaient de part et d'autre, mais en tout cas, ils ont tous vraiment passé les 3 jours enfermés ensemble, dormaient sur place, mangeaient sur place, avec peut-être cette idée qu'en se parlant dans les interstices des discussions officielles, peut-être quelque chose se passerait. Pourquoi, vous disiez, Benoît Trépied, juste avant qu'on entende Manuel Valls, que les discussions sont soldées par un échec de la faute des loyalistes. Pourquoi les loyalistes seraient-ils les seuls responsables? Alors quand on dit loyalistes, en plus, il faut préciser, ce sont les non-indépendantistes, le camp est large, et vous le rappelez bien dans votre livre, plus large que simplement les loyalistes. Mais pourquoi seraient-ils les seuls responsables de cet échec?
Alors bon, on n'a pas le secret des discussions, etc. Mais disons que on a appris qu'il y avait 2 projets qui ont été finalement discutés lors de cette dernière réunion. Il y avait d'une part le projet porté par Manuel Valls, faisant la synthèse de toutes ces discussions entamées depuis plusieurs mois, et étant ce qu'il a appelé un recouvrement de souveraineté avec la France, c'est-à-dire tentant de concilier 2 positions. Éloigner d'une part un plein recouvrement de souveraineté et en même temps conserver un lien avec la France. L'idée derrière celle-ci, c'est celle que le futur État calédonien devient pleinement souverain, mais décide librement de nouer un partenariat de longue durée, inscrit dans la constitution des 2 pays, avec la France, un petit peu ce qu'on connaît de plus proche ici, c'est le statut de Monaco, par exemple. Mmh. Où donc on peut faire un partenariat à durée, pour le futur, sur le très long terme, et où l'État calédonien pourrait décider de reconfier certaines de ses compétences régaliennes, par exemple la défense, par exemple la justice, etc. Ça, c'était le projet. Ce projet-là, il a été accepté par les 2 délégations indépendantistes. Il y en avait 2 différentes, le FLNKS et l'UNI. Il a été accepté par un parti centriste dans l'échiquier local qui s'appelle l'Éveil océanien. Et il a été accepté par un parti non indépendantiste, disons modéré, qu'on appelle Calédonie Ensemble. Donc en fait, voilà, ces 4 délégations étaient partantes pour cet accord qui était au-delà donc d'un soutien purement indépendantiste. Les 2 autres délégations qui ont refusé, ce sont celles de la droite loyaliste radicale, donc qui s'auto-désignent les loyalistes et le Rassemblement, qui eux ont dit il n'est pas question d'aller dans un tel système. Et eux ont proposé un autre projet qu'ils appelaient un fédéralisme interne, où schématiquement il y avait les 2 provinces à majorité Kanak qui pouvait construire un statut d'État associé et la province sud où se trouve Nouméa qui restait intégrée dans la France. Mais ça, c'est un schéma de partition. Or, la partition, un schéma un petit peu Comore-Mayotte, hein, si on veut, au XXIe siècle, dont on sait que, et on vous en parlerait demain, mais que ça pose un certain nombre de problèmes. Et surtout, ce schéma de partition, il est en toutes lettres refusé dans l'accord de Nouméa qui dit qu'il n'y aura aucune dynamique de partition. Et c'est à ce titre-là que l'État l'a refusé. Donc, schématiquement, véritablement, on était sur un accord qui était plus large que le simple soutien des indépendantistes et les loyalistes revendiquent très clairement d'avoir fait échec à ce projet.
Manuel Valls a rejeté le projet des loyalistes qui était basé, vous l'avez dit, sur une forme de fédéralisme avec un renforcement des compétences des provinces, compétences notamment fiscales. Manuel Valls l'a refusé au motif qu'il mettait en cause l'unité et l'indivisibilité de la Nouvelle-Calédonie, un projet de partition de fait. Ce qu'on entend bien, Benoît Trépied, à vous entendre, c'est que on n'était pas dans une sorte de trilogue entre, d'un côté, le gouvernement, de l'autre, des indépendantistes et de l'autre, des non-indépendantistes, mais que les 2 camps, habituellement 2 camps, sont arrivés en ordre dispersé. Les 2 camps semblent assez fracturés. Est-ce que ce sont les événements de l'année dernière qui ont fait bouger les lignes, qui ont pesé de tout leur poids sur ces discussions?
Oui, je pense tout à fait que ce qui s'est passé l'année dernière a profondément redistribué les cartes d'un point de vue politique, peut-être même dès 2021, le 3e référendum qui a été le début de cette nouvelle situation politique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé notamment après 2024, c'est que du côté des indépendantistes, il y a vraiment eu 2 tendances entre ceux qui ont condamné les violences en les imputant à d'autres partis indépendantistes et puis ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas commandité ces violences. Donc il y a ce qui était avant le FLNKS, c'est divisé en 2 gros blocs. Et puis au sein des autres, des non-indépendantistes au sens très large, en fait, on voit de plus en plus surgir des lignes de fracture entre ceux qui continuent d'avoir une attitude d'intransigeance et de confrontation et les autres qui sont de moins en moins marginaux, disons, qui ont compris qu'en réalité, il n'y avait pas de futur possible à long terme de paix, de stabilité et même de développement économique sans une forme de recouvrement de souveraineté pour le peuple kanak. C'est-à-dire que les kanaks disent et répètent qu'ils n'abandonneront jamais la revendication d'indépendance. On a vu que ça se transmettait de génération en génération. Et donc, plutôt que de subir jusqu'au bout, il valait mieux se mettre autour de la table et puis trouver une forme de recouvrement de souveraineté qui préserve les intérêts de tout le monde. Et comme le pari des indépendantistes, c'est la construction d'une indépendance avec les autres, hein, dans une forme de citoyenneté, disons, inclusive, qui n'est pas kanak au kanak, en fait, il y a la place de négocier. Et c'est on a beau chercher et tourner le problème l'aborder dans tous les sens, c'est quand même la principale voie d'espace de compromis. Et ça, il y a de plus en plus de non-kanaks qui, je pense, l'ont compris. Ça a été manifesté notamment par ce parti loyal non-indépendantiste modéré Calédonie Ensemble, qui depuis l'époque des référendums dit il faut qu'on trouve une façon, disent-ils, je cite, de conjuguer souveraineté et république. Donc finalement on est un peu dans les mêmes eaux, et c'est un peu cette fragmentation politique qui explique les reconfigurations actuelles.
Parmi les indépendantistes, cette fois, certains ont l'air d'être un peu plus intransigeants que d'autres, et notamment Christian Tin, qui est le chef de la cellule de coordination des actions de terrain, le CCAT, qui a rejoint le FLNKS en août dernier. Lui est en prison à Mulhouse. Il a été mis en examen pour complicité, tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, mis en examen après les violences ou la révolte de l'année dernière. Ces indépendantistes-là, sous la houlette de Christian Tin, est-ce qu'ils sont représentatifs de tout le camp indépendantiste? Parce que lui, au départ, juste avant que ne s'ouvre ce troisième cycle de violence, il disait « Moi, je n'exigerais que la signature d'un accord au plus tard le 25 septembre 2025 qui précisera la date effective d'accession à l'indépendance avant la fin du mandat présidentiel en 2027. » Il était beaucoup plus sûr de son fait que n'ont semblé l'être tous les indépendantistes réunis la semaine dernière.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué, en ce sens que avant le basculement du 13 mai et l'explosion de Nouméa, il y avait déjà une très forte dissension sur les stratégies à suivre au sein de la mouvance indépendantiste face à la volonté de l'État macroniste et des loyalistes de passer en force sur la question du dégel du corps électoral. C'est là où il y a déjà eu une tension qui s'est finalement exacerbée au sein des indépendantistes.
Un point central des accords de Nouméa, c'est ce qui permettait jusqu'à présent que les Kanaks, qui sont devenus minoritaires dans le corps en Nouvelle-Calédonie du fait de la colonie de peuplement qui a été, oui, la Nouvelle-Calédonie, ne pouvait donc pas être représentée à la juste hauteur dans les élections.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa, signé en 98, il organisait une décolonisation progressive. Le mot décolonisation est dans le texte qui est lui-même dans la Constitution. Il organisait une décolonisation progressive en construisant une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur de la citoyenneté française qui permettait que se réunissent et les Kanaks et les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont enracinés dans le pays, qui n'ont plus d'autres terres, ceux qu'on appelle parfois les Caldoches, les descendants des colons, des bagnards, ceux que parfois on a appelés aussi les victimes de l'histoire. Bref, ceux avec qui les Kanaks vont faire peuple. C'était ça le projet. Et pour délimiter qui sont ces gens-là, eh bien, on a donc créé des droits politiques et sociaux particuliers attachés à la citoyenneté calédonienne, et en particulier celui de voter aux élections provinciales, qui sont les élections du pays qui déterminent le congrès et le gouvernement du pays. Donc ça veut dire que depuis 98, il existe des citoyens français qui sont aussi citoyens calédoniens là-bas, et d'autres citoyens français qui ne sont pas citoyens calédoniens, donc qui ne peuvent pas voter à ces élections provinciales-là. Cela étant, les citoyens français installés là-bas qui ne sont pas citoyens calédoniens peuvent toujours voter aux municipales, aux législatives, aux présidentielles et aux européennes. Et ce que l'accord de Nouméa a défini, c'est que les gens qui ne font pas partie de ce corps citoyen calédonien, ce sont les Français qui sont arrivés après 1998, c'est-à-dire après le déclenchement du processus de décolonisation, c'est-à-dire des gens qui se sont installés dans un pays qui était déjà en voie de décolonisation et qui essayaient de sortir du contentieux colonial par cette réconciliation entre anciens colons et anciens colonisés. Ceci explique que tous les gens qui sont venus depuis une vingtaine d'années en Calédonie ne soient pas sur ces listes électorales spéciales de la citoyenneté parce qu'ils ne sont pas citoyens. Donc ça, c'est le contexte. Or, la volonté des loyalistes radicaux et à l'époque du gouvernement et de ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'était de permettre une inscription de ces Français non citoyens calédoniens sur les listes électorales provinciales. Et donc, ce faisant, parce que tous ces gens-là sont massivement loyalistes, eh bien, de bousculer les équilibres démographiques et électoraux en faveur du camp loyaliste. Les indépendantistes étaient opposés à ça, mais c'est là, pour revenir à votre question précédente, que les stratégies ont été différentes. D'un côté, il y a les gens, disons, d'un parti qu'on appelle le Palika UPM, donc la coalition UNI, Union Nationale pour l'Indépendance, qui se sont opposés à ça, mais qui ont dit on va pas faire la stratégie du face-à-face parce que la situation risque de dégénérer, tandis qu'une autre, l'autre locomotive du mouvement indépendantiste, l'Union calédonienne, etc., a dit cette fois-ci c'est trop, on doit s'opposer. Donc on crée la CCAT, cette cellule de coordination de terrain, et on fait des grandes mobilisations pour s'opposer au dégel du corps électoral. Ça, c'est ce qui s'est passé début 2024, il n'y a pas eu de heurts.
Et au départ, c'était même assez festif.
C'était très festif, familial. Très familial. Et ça a été aussi un moment d'intense mobilisation kanak, nationaliste, etc. Et mais ça a été aussi une montée des tensions sur le terrain. Donc on a bien vu que si l'État continuait avec cette inflexibilité, il y avait un risque de débordement. Et ça n'a pas manqué, puisqu'à partir du 13 mai, quand l'Assemblée nationale a voté, eh bien le pays s'est embrasé. Et là, la mobilisation politique qu'avait fait la CCAT, l'UC, donc tous ces partis indépendantistes, elle s'est manifestement doublée d'une irruption sociale incontrôlée puisqu'on savait par ailleurs que Nouméa était un terreau extrêmement brûlant socialement, et donc de toute une jeunesse qui s'est jetée à corps perdu dans cette insurrection, et qui fait que la situation a complètement échappé à tout le monde.
Donc des événements, des violences, les 14 morts qui ont pesé de tout leur poids sur ces discussions et qui ont aussi contribué à non pas diviser les indépendantistes, qui restent quand même globalement d'accord sur le fond, mais simplement à nuancer les positions des uns et des autres quant à la conciliation qu'il faudrait mener avec le gouvernement et avec les non-indépendantistes.
On doit, dans la mesure du possible, parvenir à quelque chose, à un accord. Sinon, faire en sorte à ce que l'on puisse rapprocher les uns et les autres, enfin, au moins toutes les personnes, les responsables politiques qui sont autour de la table.
Nous, on attend de voir la teneur des débats. Pour l'instant, on n'a rien signé. On a nourri les débats, les thématiques sur la loi fondamentale, les compétences régaliennes, les perspectives de stabilité. C'est surtout ça qui est posé autour de la table. Nous, on est indépendantistes, on défend un projet de souveraineté. Pour l'instant, on attend de voir.
Emmanuel Tchibaou, le président de l'Union calédonienne, qui rappelait ses lignes rouges avant le début des discussions. Il était précédé de Jean-Pierre Djaoué, qui est président du groupe UNI au Congrès, qui a quitté cette frange la plus modérée du FLNKS, qui a quitté le FLNKS il y a quelques mois. Emmanuel Tchibaou étant d'ailleurs, on le rappelle, le fils de Jean-Marie Tchibaou, Benoît Trépied. Je voulais vous demander si aujourd'hui, les représentants de chaque camp, tous ceux qui sont réunis, en l'occurrence par Manuel Valls, pour discuter ces dernières semaines, est-ce qu'ils étaient déjà là pour beaucoup en 1998? De quelle manière sont-ils et elles les héritiers des accords de Nouméa?
Alors, il y a eu un renouvellement important de génération, en particulier du côté loyaliste, hein, c'est vraiment une nouvelle génération politique qui, à certains égards, s'éloigne, c'est le moins qu'on puisse dire, de la trajectoire qu'avait et de la vision qu'avait Jacques Lafleur en 88 et 98. Hein, même notamment le député Nicolas Mesdorf récemment, il disait qu'il en voulait beaucoup à Jacques Lafleur d'avoir signé l'accord de Nouméa, qu'en gros il s'était fait avoir. Du côté des indépendantistes, pendant longtemps, il n'y a pas eu de renouvellement politique, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu un éloignement croissant de la classe politique vis-à-vis des grassroots, hein, des gens à la base. Cela dit, on a entendu Emmanuel Tchibaou, et en fait Emmanuel Tchibaou, lui, qui évidemment est le fils de son père, mais qui depuis 10 ans était un acteur du secteur de la culture et ne faisait pas de politique. En fait, le 13 mai, les conséquences du 13 mai l'ont conduit à s'engager, ce qu'il n'avait pas fait, et donc il est tout à fait novice en politique, mais il a été élu aux législatives de juillet 2024, sachant que il y a deux circonscriptions législatives et toutes les deux ont été découpées par Charles Pasqua en 86, et donc ce sont deux fiefs loyalistes, c'est-à-dire que Emmanuel Tibaou a remporté une circonscription qui était a priori ingagnable, ce qui souligne que malgré ou peut-être à cause du 13 mai, on ne sait pas, mais que il n'a pas été élu que par des Kanaks indépendantistes. Donc il y a aussi des Caldoches des zones rurales, des Wallisiens et Futuniens de l'agglomération de Nouméa. Bref, que à la fois par son parcours, son incarnation, c'est qu'il y a un homme qui plaide pour le destin commun, qui dit bien que lui aussi c'est l'indépendance avec tout le monde, eh bien il a séduit, mais c'est peut-être aussi que, comme je disais tout à l'heure, que les Calédoniens dans leur ensemble comprennent qu'après plus de 35 ans d'accord, on ne peut pas encore éternellement repousser ad vitam aeternam cette question de l'indépendance dans une position d'inflexibilité et de réaction. Donc il y a eu une forme de renouvellement politique, et c'est aussi ce qui explique les données du problème actuellement.
Vous citiez Nicolas Metzdorf, ce député Renaissance, voilà, qui fait d'ailleurs très souvent le parallèle entre l'Arménie, où il s'est rendu récemment, et la Nouvelle-Calédonie, qui ne cesse de parler d'ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie, des accusations que vous qualifiez d'absurdes. Benoît Trépied, vous allez nous expliquer pourquoi, mais en tout cas, avec Sonia Backès, ils ont en effet un discours différent de celui qu'avaient les loyalistes et Jacques Lafleur dans les années 80-90. Nicolas Metzdorf, par exemple, il dit que dans la vie, ce sont toujours les plus déterminés qui gagnent, quel que soit le droit international, quel que soit le juridisme et les règles de droit dans lesquelles on se pense enfermé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment les loyalistes ont progressivement, comme ça, changé de discours au fur et à mesure? Dire que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie serait contraire au droit international, par exemple, il se trouve qu'il s'est appuyé d'un juriste, un professeur de droit français, qui l'appuie beaucoup dans ce discours-là, en disant dans la Constitution, on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, en Nouvelle-Calédonie, il ne s'agit pas que des Kanaks, il y a aussi des Caldoches et des personnes qui ne sont pas ces peuples qui voudraient disposer d'eux-mêmes. Donc, voilà, comment vous avez vu progressivement ces discours côté non-indépendantiste changer?
Il y a eu une radicalisation croissante et tout à fait frappante du discours loyaliste au fil de la décennie 2010, c'est-à-dire vraiment à partir du moment où le souffle de 98 et cette vision généreuse de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire d'une décolonisation inclusive par la citoyenneté qui avait été portée par les signataires de 98, s'est un peu effiloché. Donc ça, c'est vraiment dans les années 2010. Ça allait de pair aussi avec une crise économique croissante dans le pays, avec le fait que les inégalités ont cessé de se résorber, au contraire se sont accentuées, ce que tous les travaux de démographie et d'économie attestent. Et donc il y a eu une logique de citadelle assiégée qui s'est renforcée, d'autant plus à l'approche des référendums. Voilà.
Donc référendums, ça on peut y revenir, c'est vraiment un cycle qui a vraiment marqué la Nouvelle-Calédonie récemment et qui, très certainement, les violences de l'année dernière trouvent leur source dans ces trois référendums 2018, 2020, 2021.
Oui, voilà. Donc l'accord de Nouméa, il avait prévu dans la forme de décolonisation, il y avait non seulement cette citoyenneté calédonienne dont j'ai parlé, il y avait aussi la reconnaissance préalable et centrale de l'identité kanak pour éviter que cette dynamique, disons, d'émancipation n'aboutisse à une forme d'indépendance blanche. Donc toujours ne jamais oublier la place centrale du peuple autochtone, peuple premier. Voilà. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y avait un transfert progressif et irréversible de toutes les compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie, sauf les compétences régaliennes qui définissent la souveraineté d'un État. Et donc que les référendums devaient porter sur le transfert de ces dernières compétences et donc la pleine émancipation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc ces référendums, il y avait aussi une règle explicitement signée et su et vu de tout le monde, c'était pas caché, dans l'accord de Nouméa de 98, c'est que ce premier référendum avait lieu si la réponse était positive, la Nouvelle-Calédonie redevenait pleinement souveraine. Et si la réponse était négative, il y avait la possibilité d'organiser un deuxième référendum sur la même question. Et si ce deuxième référendum, une fois de plus, était négatif, il y avait la possibilité d'en organiser un troisième. Ça, c'est le résultat de la négociation de 98. Et tout le monde était au courant dès le départ et tout le monde a signé pour ça. Donc en 2018, il y a eu le premier référendum comme ça faisait 30 ans que les accords de Matignon 88 avaient été signés, que la Calédonie s'était normalisée, que les gens travaillaient, étaient dans des trajectoires de mobilité sociale ascendante éventuellement, etc., il y avait cette idée, cette prénotion que finalement les Kanaks étaient beaucoup moins indépendantistes que dans les années 80, quand il y avait eu cette séquence guerrière qu'on appelle les événements, et que donc le non à l'indépendance allait l'emporter très largement, d'autant que le corps électoral restreint pour l'autodétermination, dans ce corps électoral restreint, les Kanaks sont minoritaires. Donc au soir de 2018, il y a eu 57% de non et 43% de oui, c'est-à-dire 18 000 voix d'écart. Et ça, en fait, c'était une mauvaise surprise pour les loyalistes, puisqu'ils pensaient que le non l'emporterait bien plus largement. Et pour les indépendantistes, au contraire, c'était une bonne surprise. Donc immédiatement, ils ont dit, on fait le deuxième référendum. Deux ans plus tard, deuxième référendum.
Oui, ils se sont laissés deux ans en disant, la prochaine fois, c'est la bonne.
Voilà, c'est ça. Et puis si ça n'ira pas, il y aura encore la troisième manche. Deux ans plus tard, le deuxième référendum, il y a eu 53 pour le non et 47 pour le oui, c'est-à-dire 9000 voix d'écart, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé à moitié leur retard. Et c'est à ce moment-là qu'on a bien compris qu'une dynamique électorale s'était enclenchée du côté indépendantiste, qui était renforcée par le fait que les derniers bastions abstentionnistes étaient du côté Kanak, renforcée par le fait qu'à chaque fois qu'il y a les nouvelles personnes de 18 ans qui rentrent sur ces listes électorales, il y a une montée tendancielle du vote pour le oui, même chez les jeunes non-Kanaks, ce qui est une grande particularité. Donc au soir du deuxième...
Pour le oui à l'indépendance.
Pour le oui à l'indépendance.
Donc ce n'est pas qu'une question de démographie, c'est aussi une question de progression des idées indépendantistes
Tout
dans
à
la
fait.
Société.
Et c'est le résultat des accords de Matignon et Nouméa qui disent on s'émancipe en construisant un pays émancipé où chacun a sa place, dans une forme de souveraineté multiethnique, quoi. Et on redéfinit le rapport avec la France, on n'est pas forcément dans la rupture. Donc ça, c'est le résultat de l'accord de Nouméa, cette poussée croissante du vote indépendantiste chez tout le monde. Voilà. Au soir du deuxième référendum, immédiatement donc les Kanaks ont dit on va faire le troisième référendum, et là tout le monde a compris à Paris comme à Nouméa que la victoire du oui final au troisième référendum, qui était le référendum décisif, c'était une vraie possibilité. Alors que précédemment, tout le monde pensait que c'était une éventualité qui n'adviendrait pas. Là, il y a eu vraiment la crainte pour les uns et l'espoir pour les autres que le oui l'emporte au référendum final. Et c'est là, il faut bien le souligner, qu'à partir de 2021, on a vu le gouvernement, sous la houlette de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sortir justement, comme je le disais tout à l'heure, l'État de sa position d'impartialité et s'allier de plus en plus ouvertement avec les loyalistes pour faire échec à ce troisième référendum. Et sur le choix de la date du troisième référendum qui a été avancé et qui n'était pas consensuel, puis l'État a...
Parce qu'on sortait du Covid et que beaucoup, beaucoup de familles étaient en deuil.
Voilà, alors donc d'abord, le choix de la date n'a pas été avalisé par tous les partis indépendantiste. Puis l'État a publié un document sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance, qui était un document à charge contre le oui, en présentant le scénario catastrophe d'une indépendance typique des années 50, alors même que les débats sur l'indépendance sont beaucoup plus ouverts, comme on l'a dit aujourd'hui, qu'il faut inventer une indépendance du 21e siècle sous une nouvelle formule. Et puis troisièmement, surtout, vous l'avez dit, le Covid a débarqué à partir de septembre 2021, a fait des ravages chez les Kanaks et chez les Océaniens, et à ce moment-là, se sont mis en place d'immenses... Enfin, il y a eu une exigence de report pour le temps que les Kanaks fassent leur coutume de deuil, ce qui mobilise énormément de personnes pendant des jours et des jours. La même chose chez les Wallisiens et Futuniens, et les indépendantistes ont dit, nous, dans ces conditions, on ne peut pas décemment aller faire campagne dans les tribus et dans les clans endeuillés. Or, on doit aller chercher les derniers abstentionnistes. Donc, pour faire... Là, on n'est plus dans le temps de la politique, on est dans le temps de la coutume kanak de deuil, sachant que la coutume kanak, c'est au cœur de l'identité kanak, que normalement, qui est respectée par l'accord de Nouméa, donc on demande un report de 6 mois. Les loyalistes ont dit non, pas du tout, vous instrumentalisez la coutume kanak, ce qui a été perçu comme une insulte, et au final, l'État a dit, Sébastien Lecornu a dit, les élections, on les fait en temps et en heure, donc on maintient. Donc face à cette alliance de plus en plus explicite de l'État avec les loyalistes, les indépendantistes ont appelé à ne pas participer à ce troisième référendum. Conclusion, il y a eu 97% de voix pour le non à l'indépendance, mais 56% d'abstention.
Ouais.
Et c'est à partir de là où la confiance a été rompue entre l'État et les indépendantistes, et que tout le processus s'est effiloché jusqu'à 2024, qui, à certains égards, est une réponse à 2021.
Le gouvernement, à ce moment-là, a considéré que le dossier était clos, en quelque sorte, que la question néo-calédonienne était soldée et son appartenance à la France actée, d'où d'ailleurs la fin du gel. Il était question de revenir sur ce gel du corps électoral en disant qu'il n'avait que trop duré au regard de l'un des principaux fondamentaux de la démocratie, un homme ou une femme égale une voix. D'ailleurs, sur cette question du corps électoral, Benoît Trépied, depuis un an, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie affirme que 11 000 résidents ont quitté le territoire parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont perdu, pour certains, leur maison, leur commerce. Est-ce qu'on sait si ce sont essentiellement des hexagonaux, comme vous dites, pour éviter le mot piégé de métropolitain? Est-ce qu'il y a de quoi, entre guillemets, rééquilibrer le corps électoral? C'est beaucoup, 11 000 résidents sur 270 000 habitants.
Oui, alors ces chiffres-là ne sont pas consolidés. Oui. C'est ce qu'a dit Lisée, hein, qui est l'antenne locale de l'INSEE, en disant méfiez-vous de ces chiffres-là. Ils sont en train de faire le recensement en ce moment de Nouvelle-Calédonie. Donc dans quelques mois, on aura une idée beaucoup plus précise et juste du nombre de gens qui sont partis. Il n'y a aucun doute qu'il y a plein de gens qui sont partis et que l'immense majorité d'entre eux, mais peut-être pas seulement, mais que très probablement la grande majorité d'entre eux, ce sont des hexagonaux. Mais on ne sait pas encore combien ce que ça représente. Plus largement, les recensements nous apprennent que depuis une dizaine d'années, de fait, il y a plus de départs que d'entrée dans le pays, c'est-à-dire que on a calculé depuis une dizaine d'années, il y a 2000 départs nets par an, ce qui fait que tendanciellement, effectivement, les rapports démographiques sont en train d'évoluer. Et un point qui est très important pour comprendre aussi tout le problème de ce corps électoral, c'est que schématiquement, on ne sait pas si tous les gens qui sont encore sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie générale sont encore des résidents ou sont repartis. Ce qui fait qu'on a eu tendance très certainement à dramatiser l'enjeu du corps électoral dans les deux camps. C'est-à-dire les loyalistes disant il y a des dizaines de milliers de gens qui sont exclus du corps électoral, c'est complètement antidémocratique. Et les indépendantistes de l'autre côté disant si jamais ces dizaines de milliers rentrent dans le corps électoral, on va être complètement noyés. Alors que très certainement, il y a beaucoup moins de personnes que ça qui sont concernées, puisqu'en fait, il y a un décrochage entre les inscrits qui ne sont plus résidents parce que les listes électorales de Calédonie ne sont pas automatisées, donc pas mises à jour.
Sur les chiffres, en effet, de tout ce qui a pu advenir depuis le soulèvement de l'année dernière, la chaîne Calédonie Première, par exemple, les met à jour très régulièrement. On essaye d'avoir une vision la plus juste possible des choses. On dit, par exemple, que 20% des médecins sont partis à tel point que l'hôpital de Nouméa a dû fermer des services et suspendre des opérations. Des infirmières aussi qui, pour certaines, venaient de l'Hexagone et y sont retournées. Est-ce qu'on sait, Benoît Trépied, si des armes circulent toujours? Ces armes qu'on a vues sortir des maisons il y a un an?
La Calédonie est un pays très armé. Notamment parce que les pratiques de chasse sont très populaires, tous azimuts. Donc il y a toujours ce risque-là. Hein. Ça a même été rappelé tout récemment par Manuel Valls, qui disait que le problème, c'est que si on ne fait pas un accord, il y aura le chaos, parce que le pays continue d'être... les armes sont là. On sait par ailleurs que les barrages qui se sont organisés, les barrages loyalistes contre les indépendantistes qui se sont organisés à Nouméa, il y avait la question des armes. Bon, de toute façon, il y a la question des armes dans les deux sens, mais que se sont coordonnées ces structures d'autodéfense se sont coordonnées récemment dans un comité de résistance citoyenne et qu'on se pose des questions sur la militarisation croissante de ces mouvements d'autodéfense qui font craindre que à la prochaine escarmouche, ça puisse basculer dans un bain de sang. Donc on est toujours aussi au bord du gouffre de ce point de vue-là et c'est une fois de plus pour ça que le fait de ne pas avoir signé un accord fait peser de lourdes menaces sur l'avenir de l'archipel.
Du côté des loyalistes, tous ceux qu'on a trouvés armés, il y a d'ailleurs des vidéos de cet élu loyaliste Philippe Blaise aperçu près de ce qu'on a appelé une milice qui lui dit de jeter son sabre. On voit certains tenir à la main des battes de baseball, un club de golf, une barre de fer. L'un d'entre eux est muni d'un grand couteau, une sorte de machette comme il est dit dans les articles qui parle de cette scène-là. Alors du côté des non-indépendantistes, on dit qu'il s'agit de citoyens ordinaires soucieux de protéger leur famille et leur habitation. D'autres, comme le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, parlent vraiment de milices et de son inquiétude de voir ces milices prendre de l'ampleur. Alors, dans tout ça, peut-être pour conclure cette première partie, Benoît Trépied, on a du mal à entendre où peuvent être les points de convergence qui auraient été identifiés la semaine dernière et dont les intervenants parlaient au tout début de l'émission.
Je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un accord déjà général sur le fait qu'il faut trouver une façon de de pallier à l'immense crise économique et sociale qui pèse actuellement sur le destin du pays. Ça, c'est un élément fondamental. Et puis après, il y a une tension très forte entre... En gros, l'alternative, c'est est-ce que le processus de décolonisation est terminé ou pas ? S'il n'est pas terminé, comment le terminer ? Et comment continuer d'avancer pour trouver une forme de décolonisation où il n'y aura pas de perdant, quoi. Voilà. Là, ça reste très ouvert, mais je ne suis pas dans le secret des négociations, donc on verra dans quelques mois de quoi il s'agit.
En Nouvelle-Calédonie, le dialogue est-il impossible ? C'est le premier épisode de notre série sur la fracture entre Paris et les Outre-mer. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, un an après le déclenchement du soulèvement et des violences qui avaient fait 14 morts l'année dernière, les discussions organisées par Manuel Valls n'ont pas abouti, mais au-delà des clivages politiques entre les Néo-Calédoniens, certaines parties du territoire échappe à ces tensions qui abîment l'archipel.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans l'agglomération du Grand Nouméa existe un quartier où vivent ensemble des Kanaks, des Caldoches, des Hexagonaux, des Océaniens. À Katiramona Nundwe, c'est le nom de ce quartier. Les habitants préservent une forme de concorde qui doit beaucoup à la façon dont il s'est construit et développé dans les années 70. Bonjour Benoît Carteron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, membre du laboratoire Espace et Société de l'Université d'Angers. Vous avez écrit « Du quartier au pays, sociabilité pluriculturelle et appartenance ». Appartenance en Nouvelle-Calédonie, paru aux éditions des Presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. D'abord, comment est-ce qu'on peut se représenter ce quartier de Katiramona Nundwe qui a l'air assez étendu en termes de superficie ?
Les communes sont de vastes communes en Nouvelle-Calédonie et ce quartier, c'est comme une sorte de village excentré qui est à 15 km de l'entrée de Nouméa. Assez divers, assez étendu et assez divers. On appelle ce quartier les quartiers nord de Dimbéa, les quartiers sud étant la zone qui touche directement la ville, avec une composition d'habitats en partie de lotissement, en partie d'habitats isolés, et en partie aussi de ce qu'on appelle vulgairement les squats, c'est-à-dire des zones où surtout des Kanaks se sont installés dans un habitat de fortune.
Comment ce quartier, il s'étend sur 6 km, il compte 4000 habitants. Comment expliquer une telle diversité dans ce quartier, habité aussi bien par des Kanaks, des Caldoches, donc ces Calédoniens d'origine européenne, descendants de colons libres ou de bagnards, des Océaniens, des Hexagonaux, des Sud-Asiatiques? Tout a commencé dans les années 70, quand ce quartier n'était encore que de vastes terrains d'exploitation agricole, en fait, c'est ça, immense.
Oui, c'est ça. Et donc, ce quartier qui a émergé dans les années 70 a été en fait, dans son centre de lotissement, a été créé par un hexagonal, qui avait repris donc une ancienne exploitation coloniale et face à la demande importante de logements de l'époque due aux migrations vers Nouméa, a décidé donc de lotir ces terres. Et c'est comme ça qu'a émergé ce quartier qui s'est surtout formé à partir de gens de conditions modestes, venant de tous horizons, comme vous l'avez dit, y compris venant de Nouméa, et qui se sont débrouillés pour vivre ensemble durant une à deux décennies au sein d'un quartier qui n'était pas considéré à ce moment-là par la commune. Donc c'était des chemins de terre, une adduction d'eau fournie par le lotisseur lui-même, etc. Donc qui n'était pas convoité par des populations plus aisées.
pas convoitée et assez abandonnée aussi à l'époque, dans les années 70, à l'arrivée de ses habitants, en tout cas ceux qui se sont installés dans le lotissement. Le quartier ne comptait aucun service public, il était enclavé, il était peu équipé. Et c'est ainsi que progressivement, comme vous l'écrivez dans un article, Benoît Carteron, l'entraide entre voisins s'est imposée, et ça, quelle que soit à la fois l'origine des habitants et leurs convictions politiques.
Oui, et c'est ce qui m'a intéressé dans le choix de ce quartier-là pour mener cette recherche, ce qui était une forme d'engagement de mon côté, de montrer que une identité commune émerge en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a existé et qu'elle continue d'exister. Elle a existé dans d'autres espaces aussi par le passé, du fait de cette cohabitation de populations d'origine très diverse et qui ont dû se rapprocher pour aussi faire vivre ce quartier, résoudre leurs problèmes quotidiens, réaménager des loisirs en commun, et tout ça en fait sur une base de valeurs et de pratiques dans lesquelles ils se reconnaissaient ensemble, avec une large part d'ailleurs de références au monde océanien.
Vous parlez d'une circulation des coutumes, des cultures, des coutumes de certaines communautés reprises à leur compte par d'autres, comme les mariages par exemple, et ces habitants qui ont en commun la recherche d'un mode de vie plus proche de la brousse que de la ville. Écrivez-vous dans un article qui revient longuement sur l'utilisation de ce terme de brousse en Nouvelle-Calédonie, hérité de la colonisation mais repris à leur compte par les habitants, y compris Kanak. Est-ce que dans tout ça, la politique a néanmoins une place, Benoît Carteron, quand des émeutes comme l'année dernière, où ce soulèvement prend la Nouvelle-Calédonie de court, comment ce quartier-là est-il plus ou moins hermétique à ce qui se passe sur le caillou, comme on dit?
Alors, je ne peux pas véritablement répondre.
Vous n'y étiez pas, mais vous avez beaucoup contacté les gens que vous connaissez sur place.
Oui, oui. Donc, le quartier n'a pas été, exempt des difficultés qui ont été connues l'an passé. Donc il y a eu aussi des comités de défense qui se sont montés, des barrages. Mais c'est vrai que c'est un quartier dans lequel les gens ont cultivé un esprit qui était déjà présent dans les années 80, parce qu'il est resté un petit peu en dehors des affrontements des années 1980, avec cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le redécoupage politique qu'évoquait Benoît Trépied tout à l'heure, cette idée qu'on est avant tout des Calédoniens, qu'on est très proches, qu'on partage beaucoup de choses ensemble et qu'on se sent avant tout habitant du pays. Et qui permet d'aller au-delà de cette tendance à l'affrontement qui revient du fait de cette surdétermination de l'opposition indépendantiste, non-indépendantiste.
Il y a eu quelques tensions l'année dernière, quelques barrages, des jeunes Kanaks criant dans les rues des lotissements de Katiramonanondoué, mais plutôt accueillis avec hostilité par les habitants qui leur ont assez vite demandé de s'arrêter. Est-ce que certains parmi les habitants de ce quartier ont émis l'idée de faire de cette concorde qu'ils ont réussi à maintenir un programme politique?
C'est tout le problème, je dirais. Donc avant même les affrontements de l'an passé, il y avait déjà cette distance vis-à-vis de ces manifestations consistant à dire Kanaki c'est chez nous, y compris chez les Kanaks qui ont une résidence dans le quartier, mais qui sont souvent multirésidentiels, qui ont aussi leur pied à terre en tribu, et qui considèrent que le quartier permet aussi aux Kanaks de s'adapter à un mode de vie urbain, à d'autres univers culturels, à d'autres cultures. Et c'est pour ça qu'il y a, comment dire, ce refus de voir arriver des jeunes Kanaks qui considèrent que ici ils sont chez eux et que les autres doivent partir. Voilà, et j'ai perdu une partie de votre question.
Non, vous y avez tout à fait répondu. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. C'est un slogan qui n'est pas propre aux habitants de Katiramona Nandoué, mais qui est répété à l'envi par certains de ses habitants. Essayons, disent-ils en somme, de faire en sorte de vivre ensemble, et aussi parce que les habitants de ce quartier n'ont pas pour beaucoup les moyens de déménager. Ils savent de toute façon qu'il leur faut composer entre voisins et faire en sorte que ça tienne. Merci beaucoup Benoît Carteron d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Du quartier au pays, sociabilité pluriculturelle et appartenance en Nouvelle-Calédonie, par aux éditions des presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Benoît Trépied, qui croit encore à ce destin commun en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ce destin commun dont parlaient les accords de Nouméa.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore, et tout à fait dans la lignée de ce dont on vient de parler pour Katiramona. Il faut bien savoir qu'à partir de mai, à partir du 13 mai, autant l'agglomération de Nouméa a pris feu, autant le reste du pays a très peu bougé. C'est-à-dire que et notamment toute cette zone de brousse, où il y a de nombreux caldoches, mais où la présence kanak, elle est incontournable, eh bien, en fait, ce sont des endroits où, au contraire, globalement, ça n'a pas bougé. Il y a eu des tensions ici ou là, hein, mais ça n'a pas bougé. Il y a même eu des scènes de fraternisation interethnique où les non-kanaks sont allés sur les barrages de la CCAT en disant « on continue d'être ensemble, on continue de croire à ce pari du destin commun ». Et c'est également ce qu'ont dit les indépendantistes, y compris sur les barrages, etc. Donc, il y a une... Et ça, c'est vraiment un résultat des accords, parce que ces zones-là rurales qui n'ont pas bougé en mai dernier, c'était précisément celles où les gens s'étaient entretués dans les années 80. Donc 30, 40 ans après, en fait, le chemin a été beaucoup parcouru. Et c'est ce qui explique notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'Emmanuel Tshibaou, il a été élu dans cette circonscription, y compris par des caldoches, pas forcément indépendantistes pur jus, mais enfin qui ont compris que de toute façon, on ne pouvait plus faire comme si on contournait les Kanaks en réalité. Donc il y a beaucoup de gens qui croient, je pense, non seulement dans les zones de brousse, mais aussi dans les quartiers populaires mélangés, ethniquement mixtes, typiques comme Katiramona ou beaucoup d'autres. Hein, voilà. Donc le pari, il est là. C'est est-ce que les gens de ce pays décide de finalement saisir cette main tendue des Kanaks qui depuis 40 ans disent on veut faire l'indépendance avec vous, ou alors est-ce que ils disent comme Sonia Bakès l'a dit, hein, je constate que comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le peuple Kanak et nous, on a trop de différences malgré 170 ans, on vit pas ensemble et donc construisons deux mondes séparés plutôt que de construire un monde ensemble. Et ça va être ça l'enjeu du futur.
Et l'enjeu du futur, mais avant ça, il y aura des élections importantes cette année en novembre, des élections provinciales, comme on ne parle pas pour l'instant d'un nouveau référendum, un quatrième donc. Est-ce que ces élections provinciales seront vécues par les différents camps comme un référendum qui ne dit pas son nom ?
Ben, ce sera en tout cas sûrement le moment où les électeurs montreront s'ils soutiennent la position des loyalistes et du rassemblement, c'est-à-dire d'intransigeance et de refus de l'accord, ou au contraire s'ils soutiennent les forces politiques qui ont soutenu la proposition d'accord de Manuel Valls. Donc en ce sens-là, oui, ce sera peut-être une sorte de référendum détourné.
Merci beaucoup Benoît Trépied d'avoir été avec nous. Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, c'est le titre que vous avez de l'ouvrage que vous avez fait paraître en mars aux éditions Anacarsis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Les États-Unis et la Chine mettent sur pause leur guerre commerciale, Catherine, qui a mis à mal l'économie mondiale, mais un cercle profite de l'instabilité de ces derniers mois, Donald Trump et son entourage.
Le président américain avait promis un âge d'or pour les États-Unis sous sa présidence. Mais si c'était le sien qui allait advenir, le Wall Street Journal s'interroge et nous plonge dans la galaxie des crypto-monnaies qui font prospérer Donald Trump et sa famille, notamment la crypto-monnaie à l'effigie du président, des memecoins très volatiles qui n'ont aucune utilité transactionnelle. Les 220 principaux détenteurs de cette crypto-monnaie Trump seront invités le 22 mai prochain au club de golf du président près de Washington. Ils Ils pourront, en échange de leur investissement, côtoyer le leader du monde libre, écrit le Wall Street Journal. 25 chanceux auront même le droit à une réception VIP avec visite de la Maison Blanche, précise le Guardian. USA Today et le Wall Street Journal estiment que les entreprises de la famille Trump et leurs partenaires ont bénéficié de plus de 300 millions de dollars de revenus générés par le trading de la crypto-monnaie créée quelques jours avant le retour du républicain au pouvoir. La Trump Organization et ses filiales détiennent 80% de ces jetons à l'effigie de Donald Trump, dont le déblocage est soumis à une période de 3 ans. Toute hausse de prix causée par des achats frénétiques accroît donc la fortune de la famille Trump, du moins sur le papier, explique le Wall Street Journal. Alors il y a également World Liberty Financial, une entreprise crypto également possédée par la famille Trump, qui a annoncé qu'une de ses crypto-monnaies était utilisée par une société d'investissement d'Abu Dhabi à hauteur de 2 milliards de dollars, rapporte le New York Times. Conflit d'intérêts pour les élus démocrates et des analystes crypto, car cet accord pourrait rapporter à World Liberty au moins 27 millions de dollars par an. Dans cette entité commerciale, on trouve Donald Trump et ses fils, mais aussi Steve Witkoff, l'émissaire spécial du président américain au Moyen-Orient. Il négocie également avec la Russie et l'Iran. World Liberty Financial s'appuie également sur son fils, écrit le Wall Street Journal, Zach Witkoff, qui a rencontré le mois dernier le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef d'état-major de l'armée pakistanaise. Dans la foulée, World Liberty Financial a annoncé un accord avec le gouvernement pakistanais visant à accélérer l'adoption des crypto-monnaies dans le pays. Et ce n'est pas tout. La chaîne télévisée CNBC nous apprend que 58 portefeuilles ont gagné plus de 10 millions de dollars chacun grâce à la pièce même du président Donald Trump, totalisant plus d'1 milliard de dollars de bénéfices, alors que 764 000 autres portefeuilles, principalement de petits détenteurs, ont perdu de l'argent avec la crypto-monnaie à l'effigie de Donald Trump.
That's the definition of a kleptocracy, is that a small number of people with proximity to power make an exceptional amount of money, but the larger public loses a lot of money.
C'est la définition d'une kleptocratie. Un petit nombre de personnes proches du pouvoir gagnent une quantité exceptionnelle d'argent, mais le grand public perd beaucoup d'argent, analyse sur CNN Scott Galloway, professeur de la Stern School of Business de l'Université de New York. Cela va plus loin, affirme ce professeur. Le 9 avril, vers 13h, il y a eu un volume anormal de transactions qui pariaient que le marché boursier allait monter. 18 minutes plus tard, Donald Trump a annoncé qu'il suspendait les droits de douane et le marché a enregistré l'une des plus fortes hausses de son histoire. Quelqu'un savait donc à 13h ce que le président s'apprêtait à faire. Il s'agit sans doute de la plus grande escroquerie de l'histoire moderne. La famille Trump a gagné 1 milliard de dollars de richesse par mois au cours des 3 derniers mois et le monde où les États-Unis deviennent, eux, de plus en plus chers au quotidien pour les citoyens, assène Scott Galloway sur CNN dans une vidéo également relayée par The Bulwark, un média américain conservateur mais anti-Trump. Kleptocratie, accusation également portée par les magazines The Atlantic et Foreign Policy, un avis partagé par le New York Times. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche lui a ouvert de nouvelles voies lucratives pour monnayer son pouvoir et les démocrates vont tabler là-dessus dans leur spot de campagne avant les élections de mi-mandat l'an prochain, annonce le Wall Street Journal, et d'alerter également sur le risque d'ingérence étrangère à côtoyer ainsi Donald Trump ou bien ses crypto-monnaies. CBS Mornings parle de conflit d'intérêts entre la participation aussi du président à ses crypto-monnaies dans un secteur que Donald Trump est censé réguler.
Par ailleurs, la Maison-Blanche et le Qatar discutent du transfert d'un jet de luxe destiné à être utilisé comme avion présidentiel.
Air Force One, donc, ce qui pourrait être le cadeau le plus précieux jamais offert aux États-Unis par un gouvernement étranger, affirme ABC News, pour qui cet arrangement devrait soulever des questions juridiques. Alors, Boeing avait été chargé de fournir à la Maison-Blanche des avions plus récents, mais Donald Trump s'était plaint plus tôt cette année du retard de l'entreprise, rappelle la BBC, Forbes, The Independent, Air and Space Forces Magazine, selon le quotidien israélien Haaretz. Ce Boeing 747-8 coûterait 400 millions de dollars et pourrait servir donc à Donald Trump jusqu'à la fin de son mandat. Rien n'exprime mieux l'Amérique d'abord qu'Air Force One, offert par le Qatar, ironise le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, cité par le Wall Street Journal. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de corruption, mais d'une influence étrangère de premier ordre, avec une marge de manœuvre supplémentaire à venir.
Merci beaucoup Catherine Dutu. demain, ce sera le deuxième épisode de notre série sur les fractures entre Paris et les Outre-mer. Il sera question plus précisément de Mayotte, un régime d'exception, avec nos invités, le journaliste indépendant Rémi Carayol et Olivier Chadoui. Dans un instant, les Midis de Culture.